Lire, les yeux fermés. Une émission qui vous est proposée par Radio Air Libre. Aujourd'hui, Jean Cocteau. Jean Cocteau, né le 5 juillet 1889 à Maison Laffitte, est mort le 11 octobre 1963 à Milly-la-Forêt. Il est poète, romancier, peintre, dessinateur, acteur, scénariste, et il fait pas mal de choses. Outre des dessins, il est connu pour ses films, dont La Belle et la Bête, Orphée ou Le Testament d'Orphée. Il est connu pour ses livres et ses poèmes, et aussi pour ce personnage un peu dandy. Et effectivement, Jean Cocteau sera, dans son jeune âge, d'abord attiré par les charmes de la société aristocratique. Son premier livre de poésie, qui date de 1910, s'appelle d'ailleurs Le Prince frivole. Ce nom lui restera, même s'il reniera cet ouvrage. Il se tourne ensuite vers les dadaïstes et participe, et même organise avec le groupe dadaïste, des manifestations comme Parade en 1917 avec Eric Satie, entre autres, vous le savez, Le Bœuf sur le Toit en 1920 ou alors Les Mariés de la Tour Eiffel en 1924. Il est de toutes les avant-gardes, mais s'il se rapproche des surréalistes au départ de ce mouvement, eh bien ce sera vite le divorce, et entre autres avec André Breton, qui dans Les Pas perdus écrit de lui. Il en est d'autres comme M. Cocteau, dont je m'excuserai que le nom vienne sous ma plume, s'il ne me paraissait urgent de signaler qu'ils vivent sur le cadavre des premiers, et si leurs élucubrations à la longue ne finissaient par nous causer un malaise intolérable. Qui n'a pas lu dans L'Intransigeant une lettre de M. Cocteau où celui-ci entreprend de nous divulguer son art poétique ? Ignore encore ce que peut produire en une matière aussi délicate un auteur qui possède à la fois le génie du contresens et celui de la désidéalisation. Voilà donc ce que disait André Breton. Le personnage n'est quand même pas inintéressant, même s'il assume peut-être très bien ses propres contradictions. Au centre de son œuvre, il y a la difficulté d'être. C'est d'ailleurs le titre d'un essai autobiographique qui paraît en 1947. C'est un génie multiple. Derrière la mondanité et le jeu de mots, il y a l'inquiétude, la douleur et la fatalité. Je vous propose d'écouter Jean Cocteau lui-même qui dit le poème Les voleurs d'enfants. Il est accompagné par un orchestre de jazz, l'orchestre de Dan Parrish, et cela a été enregistré à Paris le 12 mars 1929. Jean Cocteau, Les voleurs d'enfants.
Presque nu. Et soudain sorti d'un piège de boue et d'ortie, la bohémienne, pour le compte du cirque, vole un fils de comte. Tandis que la mère appelle, folle, debout sur l'allée, l'enfant en haut d'une échelle, au cirque, apprenait à voler. Voler à tout âge, le cirque est un cerf-volant. Sur ses toiles, sur ses cordages, volent les voleurs d'enfants. Voler, voleurs ont des ailes, la nuit, derrière les talus, où les clameurs maternelles ne s'entendent même plus. Reviens, mon chéri, mon bel ange, aie pitié de ma douleur. Mais l'enfant reste sourd et mange la bonne soupe des voleurs. Quatre fois, le sommeil lui coupe le cou à coups de vin amer. Auprès de l'assiette à soupe, sa tête roule dans les mers. À voler, le songe habitue, l'enfant rêve d'une statue effrayante au bord d'un chemin et qui vole avec les mains.
Donc, Jean Cocteau et l'orchestre de Dan Parrish enregistré à Paris. Et revenons à Jean Cocteau lui-même, connu pour ses poèmes, pour son théâtre, ses dessins, ses films, comme illustrateur aussi, comme quelqu'un qui a fait des décors de théâtre. Il a un peu touché à tout. Après la poésie, ce sont surtout les romans qui l'ont fait connaître dans les années 20. Il a entre autres publié Le Grand Écart en 1923, Thomas l'Imposteur en 1923 également, et Les Enfants Terribles en 1929. Les années 30 sont surtout marquées par le théâtre. En 1934, La Machine Infernale, Les Parents Terribles en 1938 et La Machine à Écrire en 1941. Et puis il y a aussi toute l'aventure du cinéma qu'il découvrira et dont il assimilera très bien le langage, et nous reviendrons plus tard dans cette évocation de Cocteau sur l'aspect du cinéma. En attendant, ce que je voudrais vous faire entendre, c'est un document assez intéressant parce qu'il s'agit d'une lecture, ou plutôt d'une interprétation du Bel Indifférent, donc le Bel Indifférent, dans sa version originale de 1946, et c'est Édith Piaf qui nous propose ce texte. Édith Piaf, le Bel Indifférent.
Ta sœur a téléphoné. Elle dit que tu étais dans ton bain. C'était pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentré à l'hôtel. tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente. Du reste, elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait, vous êtes sûr qu'il est là? Quel garce. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Victor, on t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais. L'heure passe si vite. Je lisais, je croyais que je venais de rentrer de mon tour de chambre, puis je regarde la pendule et je m'aperçois qu'il est une heure impossible. Où étais-tu? Parfait. Tu ne veux pas répondre, comme d'habitude. Ne réponds pas, mon bonhomme. Ce n'est pas moi qui t'interrogerai, qui insisterai. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent qu'elles veulent. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Je te demande où tu étais. Tu refuses de répondre. La cause est entendue. Seulement à l'avenir, moi, j'en prendrai à mon aise. Pendant que monsieur se promène, j'irai où bon me semble et je ne te rendrai pas de compte. Ce serait trop facile, merci. Monsieur fait ce qu'il veut et madame doit rester enfermée à l'hôtel à triple tour. J'ai compris. Je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Ah là là. Bonsoir, monsieur, dame. J'étais assez sotte pour me crever avec ce numéro de soin et cette boîte pleine de fumée. Je rentrais comme une petite fille bien sage à attendre monsieur et monsieur ne rentre pas. Monsieur est tranquille. Monsieur sait que madame est à l'hôtel, qu'elle dort. Et monsieur court les filles. Tout ça va changer. Dès demain, j'accepte les offres des types qui m'envoient des fleurs, des lettres, champagne, enfin et tout et tout. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre. D'attendre toujours. Lis ton journal. Ou plutôt, fais semblant de le lire. Rien ne m'empêchera de crier ce que j'ai sur le cœur. Car je sais que tu écoutes, que tu imites la sourde oreille. C'est très commode, un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, derrière ce journal, je devine ta figure méchante et attentive. Oui, mon cher, attentive. Et je parlerai, je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Lis ton journal. Lis ton journal, c'est si simple. Sais-tu ce que c'est, toi? Que d'être malade, que de s'en aller de la caisse, que de tousser, que de chanter pour un public qui rigole et qui remue des soucoupes? Sais-tu ce que c'est que de rentrer vite chez soi, que d'espérer l'appui de la personne qu'on aime, et que de trouver la chambre vide, et que d'attendre? Attendre. Ah, je la connais, cette chambre. Je la connais. Je connais les réclames rouges et vertes qui s'allument et qui s'éteignent et qui ont l'air d'être d'un vieux maniaque. Je connais les taxis qui ont l'air de s'arrêter, qui ralentissent et qui passent, et chaque fois mon cœur s'arrête de battre. Je connais l'ascenseur qui monte à l'étage au-dessus et qui s'arrête à l'étage en-dessous, et le bruit des autres portes. Je connais les aiguilles de la pendule qui vont à toute vitesse si on ne les regarde pas, et qui, si on les regarde, n'osent plus remuer, et se glissent pouce par pouce comme des voleurs, si lentement qu'on ne les voit pas remuer et qu'on croit que la pendule se trompe. Attendre. Faire attendre chez toi, c'est de l'art, un supplice. Si moi, tu connais tous les trucs, tous les moyens les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ah, ce que j'ai attendu. Je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Je compte mes pas entre la porte et la fenêtre. Je combine des calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un disque, je commence un livre, j'écoute. J'écoute avec toute ma peau comme les bêtes. Et quelquefois, je n'y tiens plus et je téléphone. Je téléphone dans une de ces sales boîtes où tu traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. Et tu viens toujours de partir. Et jamais on ne sait que tu es parti. Et la dame du lavabo qui prend une voix de mercoule, une voix pompatissante. Ah, oh, celle-là, je la tuerai. D'ailleurs, il est possible que je te tue. On cite des femmes qui ont tué leur amant pour moins que ça. Attendre toujours, il y a de quoi devenir folle. Et ce sont les folles qui tuent. Après, je me tuerai. Je ne porterai pas de vie de shampoing, j'en suis certaine. Mais que veux-tu, c'est un réflexe qui résisterait. Je me le demande. Tiens, regarde, je parle n'importe qui, donc jetterai son journal, me répondrait, c'est si crème, j'y serais. Toi, non, tu lis ton journal, ou tu fais semblant de le lire. Ah, j'aimerais cher pour voir sa figure derrière ce journal, sa figure de diable. Sa figure que j'adore. Et qui me donne envie d'acheter un revolver et de te tuer. Écoutez-moi. J'ai bien réfléchi. Cette nuit, j'ai décidé de tout te dire. J'ai habitué à ce que je souffre en silence, à ce que je la boucle, mais la mesure est tombée. À 2 heures, je m'étais promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentil, de me coucher, de faire comme si je dormais, comme si tu me réveillais. À 2h10, la torture de l'ascenseur et des voitures a commencé. À 2h15, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse, de faire sa police et de voir si tu étais rentré à l'hôtel. Et à 2h30, j'ai perdu le contrôle de moi-même et j'ai décidé, tu m'entends, décidé que je parlerai et que j'en finirai avec ce silence. Tu peux te taire. Tu peux lire ton journal. Tu peux te réfugier derrière ton journal. Je m'en fous. Je ne suis pas dupe. Je te vois. Je te vois malgré ton journal. Ma scène t'embête, hein. Tu ne t'y attendais pas. Tu te disais, c'est une victime, profitons-en. Eh bien non, j'en ai marre d'être une victime et de me laisser cuire un petit peu. Je vivrai, je lutterai, j'obtiendrai gain de cause. Je t'aime. Entendu, je t'aime. C'est ta force. Toi, prétends que tu m'aimes. Mais tu m'aimes pas, Émile. Tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu ne me fais pas attendre. Tu ne me tourmenterais pas à chaque minute à traîner de boîte en boîte et à me faire attendre. Je me ronge. Je ne suis plus l'ombre de moi-même. Un fantôme. Un vrai fantôme. Un fantôme couvert de chaînes, de toutes les chaînes que tu m'accroches. Un fantôme dans une oubliette. Je sais ce que tu voudrais. Oh, je le sais. Tu voudrais aller venir, faire tout ce qui te passe par la tête, coucher avec la terre entière et savoir que moi, moi que tu aimes, paraît-il, je suis enfermé à triple tour dans une chambre, dans un coffre-fort dont tu portes la clé sur toi. Et alors là, tu serais tranquille. C'est ignoble. Ignoble! Ton égoïsme dépasse les bornes. Seulement, tu as oublié que j'avais du succès, que j'étais une femme, pas une chose que je chantais, et que je gagnais ma vie, et que j'ai une foule de personnes prêtes à me défendre. Tous les inconnus de la radio lui disent, hein? Il me suffirait de crier au secours et monsieur ne battrait que d'une Émile! Bon, continue. Lis ton journal. Lis ton journal. Il y a beau temps que tu dois avoir fini de le lire. Je te conseille de le relire. De le lire de haut en bas et de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Tu es grotesque. Voilà ce que tu es, tu es grotesque. Monsieur est calme. Monsieur est calme. Et moi, je ne suis pas calme, par exemple, dit. Je suis le calme. Un modèle de calme. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui conserveraient le calme au point où je garde le mien, où je conserve le mien. Il y a des gens qu'une autre t'aurait arraché ce journal et t'aurait obligé à me répondre quelque chose. Moi, pas. J'ai décidé que je conserverai mon calme et je le conserverai. C'est toi qui manques de calme. Je ne suis pas folle, je te vois derrière ton journal. Tu trembles, tu blémis, tu crèves de rage parce que tu te sais en faute. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Victor, tu venais de partir. Avec une poule, sans doute. Sans doute avec cette poule immonde chez laquelle tu couches quand tu me racontes que tes collègues te demandent à Marseille. Tais-toi! Je te connais, je la connais. J'en suis sûre. Une femme qui a le double de ton âge et qui s'habille au marché aux puces. Les gens se retournent dans la rue, je te jure. Et voilà la poule que monsieur trouve. Voilà la poule avec laquelle il me trompe. Encore, j'apprendrai que tu me trompes avec une petite fille fraîche, neuve, une petite que tu lances, que tu as dans la peau. Je ne dis pas que ça m'enchanterait, non, mais je trouverai des excuses. Mais là, une vieille femme, et même pas riche, et qui te cherche des crosses et qui te rapporte quoi? Quoi? Je te le demande. Enfin. Les hommes sont fous, fous et vicieux, et funestes. Funeste. Tu es funeste. Voilà le mot, je le cherchais, tu es funeste. Et ma santé? Tu y penses à ma santé? Ben, tu t'en fous, hein? Si je crevais, je te débarrasserais. Tu crois que ça l'arrange, ma santé, d'attendre toujours, d'aller de cette fenêtre à cette porte et de cette porte à cette fenêtre? Il n'y avait pas le téléphone dans cet hôtel infect. J'ai fait poser le téléphone. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer, me dire, j'ai une affaire, je suis à tel et tel endroit, ne t'inquiète pas mon amour, je rentre tout de suite. Dépense inutile. C'est ta sœur qui téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice en plus. Il y avait la pendule, il y avait l'ascenseur, il y avait le téléphone. Maintenant, il y a ce téléphone qui m'obsède. Et le silence. Oh, ce silence. Jamais monsieur n'aurait l'idée où il se trouve, bien c'est tout, je préfère l'ignorer. Jamais il n'aurait l'idée de se dire, elle crève toute seule à l'hôtel, ce n'est pas difficile, je vais donner un coup de fil. Non, ce serait trop de peine. Il faudrait t'allonger le bras, prouver à la poule avec laquelle tu es que tu en as une autre à la maison, sortir de ton mystère, de ton mutisme. Émile, 1, 2, 3, tu t'obstines, tu t'accroches à ce journal. Très bien, je continuerai. Je continuerai, car tu écoutes, je sais que tu écoutes et que je t'emmène. Le sort en est jeté, je te sortirai tout le paquet. Je te dirai ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai ce que j'entasse depuis des mois. Oui, je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate. Ça s'appelle une patate. J'ai une patate sur le cœur. Une patate énorme. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte où? Oh, j'en ai tout fait. Et tes mensonges. Tu mens comme tu respires. Tu mens. Tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens à propos de bottes et continuellement. Si tu me dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux. Et tu vas prendre un boc, et vice-versa. Tu mens par habitude, pour plaisir. Tiens, l'autre jour, tu m'as raconté que tu allais chez le dentiste. Moi, je me suis douté de ton mensonge. Je me poste devant l'hôtel de ta vieille poule et je t'ai vu sortir. Ne dis pas non, ne jure pas sur ta mère, je t'ai vu. Tu n'avais pas besoin de me parler du dentiste. Mais vrai que d'aller chez le dentiste ou chez cette vieille poule, ça peut être beaucoup plus agréable. Enfin, ça te regarde. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais ce qui me révolte, comment c'est tes mensonges. Tu mens tellement que tu t'embrouilles dans tes mensonges. Tu te prends les pieds dans tes mensonges. Tu oublies ce que tu as dit la veille. Et on est gêné pour toi de ce que tu racontes. Je te l'affirme. Moi, il m'arrive de rougir quand je t'écoute raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu es un aplomb. Oh, un aplomb. Tu remarques. Je suis certaine que tu mens aussi à l'autre. À l'autre. À aux autres. Et que ton existence doit avoir la complication d'un cauchemar. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais où va-t-il quand il dort, que fait-il. Et tu souriais, tu te détendais. Je me mettais à haïr les personnages de tes rêves. Je te réveillais souvent pour que tu les plaques. Et toi, tu aimais rêver. Ah, notre vie n'était pas drôle. Tu aimais rêver et tu étais furieux que je te réveille. Ah, mais ta figure béate, ça, je la supportais pas. Maintenant, si tu dors, je me dis, me voilà tranquille, il est là, je peux le dans l'hôtel, le toucher, le regarder. Moi, je dors mal, je dors presque jamais. Alors je me dis, il dort, il est là, il est près de moi, il court pas à droite et à gauche, je l'ai, je le garde. Émile, ah, je te jure que tu vous pousseras à commettre un crime, je te le jure, ou bien tu me pousserais à casser tout, et c'est toi qui commettrais un crime, qui irait en tôle, tiens. Tu te vois en tôle. Écoute-moi, j'ai pu me contenir, hein, j'ai pu te parler avec patience. Seulement, je te préviens, ma patience est à bout. Si dans 3 minutes, tiens, je vais compter jusqu'à 30. Si, quand j'aurai compté jusqu'à 30, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens que je ferai un malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 20. Tu as de la chance. Allô? Allô? De la part de qui? Je vous demande de la part de qui? Non. Non, ce n'est pas Monsieur Émile. Comment? Non. Mais dites-moi, moi, de la part de qui? Non, je ne suis pas la bonne. Ah, c'est vous. Oui, oui. Non, non, je m'excuse, je ne suis pas la bonne. Parfaitement. Attendez, ne quittez pas. Daigneras-tu répondre? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame. Je lui ai dit que c'était vous. Il refuse de se déranger. Non, madame, il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non? Non. Je regrette, madame, mais c'est non. Ah, mais dites donc, je n'y peux rien. Vraiment? Ah, ça, vous êtes charmante. Mais dites donc, c'est pas de ma faute s'il refuse de vous parler. C'est celui que j'y fasse, moi. Ça... Oh, ça, alors. Amour. Oh, ça... J'aurais jamais cru que... Tu aurais été aussi chic et mignon, c'est vrai. Je... Oh, là, elle était curieuse, tu sais. Elle devait croire que j'étais une espèce de bonne et qu'il suffisait de dire ton nom pour que tu te précipites à l'appareil. Oh, c'est gentil, tu vois. Et moi qui croyais que derrière ton journal, tu me détestais et que tu étais prêt à me sauter dessus. Oh, c'est vraiment très gentil. Non, c'est vrai. Oh, je serais morte de honte si tu avais répondu à cette vieille pile-là. Tu vois que t'es moins méchant que tu veux le laisser paraître. Hein? Tu fais attendre, tu mens, puis au fond, tu as du cœur, quoi. Et puis même, je m'étonnais aussi de te voir aux ordres d'une vieille poule comme ça. Émile, je suis embêtante, hein, oui. Allez, pardonne-moi. Hein. Embrasse-moi.
Elle garde le journal. Émile dort, sa cigarette tombée. Elle la ramasse.
Oh! Oh, ça, par exemple, il dort. Oh! Émile! Oh, et moi qui m'attendris, c'est moi qui croyais que... Alors ça, tu... Allez, réveille-toi! Je te parlais, tu dormais, ta vieille poule a téléphoné. J'ai cru que tu refusais de te déranger, de lui répondre. Émile.
Émile la repousse d'un geste brusque. Il s'étire, se lève, allume sa cigarette et se dirige vers la cabine de toilette. Elle le suit, il se rhabille.
Émile, tu veux sortir? Ah, prends garde, mais je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me tuer.
Ouvre la fenêtre et jette son ego. L'enfant au cabinet de toilette sans qu'elle le voie. Elle quitte la fenêtre et devant la chambre vide, devient folle.
Émile, où es-tu? Émile! Émile! Oh, j'ai eu peur. Je te voyais plus, je te croyais sorti. Mais Émile, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rhabilles? Tu sors? Mais c'est impossible, écoute. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait, Émile? Émile, réponds-moi, réponds quelque chose. Écoute, tu es trop sûr, trop féroce. Tu me dois quand même une explication. Écoute, j'attends en crever. Enfin, tu arrives juste à te parler, je te parle. Puis tu te plonges dans la lecture d'un journal. Et tu t'es endormi. Alors que tu n'as même pas entendu ce que j'avais à te dire. Oh, c'est trop fort, quand même, m'en vouloir et me punir de quoi? Émile. Bah, écoute, je reconnais que j'ai été violente, que tu détestes entendre la vérité. Non, enfin, je veux dire, oh, je sais plus ce que je dis, dis-moi, entendre certaines choses qui t'ennuient. Émile. Enfin, Émile, dis quelque chose, parle, ouvre la bouche, ne reste pas là comme une borne, comme une statue. Hein? Quoi? Tu mets ton manteau? Ah non. Ah non, tu ne sortiras plus, j'ai trop souffert, je ne te laisserai plus sortir. Émile, aie pitié de moi, aie du cœur, Émile, tu as du cœur, tu m'aimes. Si tu m'aimais pas, tu ne rentrerais pas et tu rentres. Tu rentres en retard, mais tu rentres, alors c'est que tu tiens à moi, c'est que c'est pas fini. Émile, parle. Jure-moi que c'est pas fini, Émile. Émile. Émile, tu n'as pas le droit, pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Non, je n'ai rien à te reprocher. Si j'ai pu faire quelque chose pour toi, c'est trop naturel. Non, je voulais dire, pense à tous nos souvenirs. Pense à tout. À tout ça, dis. Tu m'en veux, dans le fond, tu m'en veux parce que je parle. Hein? Dis. Écoute, je t'en supplie. Pardon, je serai sage. Écoute, je me tairai. Tiens, là, écoute, je me tairai, je te coucherai. Je te borderai. Tu dormiras plus, je te regarderai dormir, si je veux dire. Tu auras des rêves et dans les rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux, mais reste. Reste, moi je mourrai s'il faut encore t'attendre demain et après-demain. C'est trop atroce, Émile. Émile, je t'en conjure, reste. Émile, regarde-moi, Émile. J'accepte, tu peux mentir. Tu peux mentir, mentir et me faire attendre. J'attendrai, Émile. J'attendrai autant que tu voudras, Émile. Émile! Émile!